Vous êtes avec Radio SBS en français.
Monsieur Charles Washington, bonjour et merci de nous recevoir dans les locaux du Palika.
Merci d'être venu jusqu'à nous.
Expliquez-nous un petit peu le rôle du Palika. Donc le Palika, si je ne fais pas d'erreur, c'est donc le Parti de la Libération Kanak.
Parti de Libération Kanak, créé en 1976, autour du mot d'ordre de l'accession du pays à l'indépendance. Ça a été l'objectif premier, donc on continue à porter ce mot d'ordre. Donc nous pensons qu'avec l'accord de Nouméa, on arrive au terme de ce qui a été notre revendication, le cœur de notre revendication.
Alors si on part sur les accords Nouméa, en principe, rapidement, rappelez-nous un peu pourquoi c'est tellement important pour justement cet objectif d'indépendance pour la Nouvelle-Calédonie.
Parce que c'est... Je rappelle simplement que la création du parti est liée d'abord au combat pour la dignité du peuple kanak qui a vécu sous le joug colonial. Donc pour s'en sortir, il faut qu'on la décolonisation donc est un moyen pour parvenir. Donc nous y sommes. Donc il y a un calendrier qui est arrêté donc en 2018 pour premier référendum et donc à ce moment-là donc nous on espère que le pays pourra assumer pleinement ses pleines responsabilités.
Alors quand on parle de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, la question qui sera posée, parce qu'on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer, sera bien plus qu'une question. Ce n'est pas une question pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. C'est un peu plus complexe que ça.
Oui, contrairement à ce que dit la droite, ce n'est pas une question binaire pour ou contre l'indépendance. L'objet de cette consultation est déjà prévu dans l'accord de Nouméa. Donc il y a trois objets. Donc le transfert des compétences dites régaliennes, la transformation de la citoyenneté en nationalité et l'accession du pays à un statut de pleine souveraineté. Voilà les trois sujets. Donc il y a eu des travaux préparatoires pour libeller au bout du compte la question qui sera posée aux Calédoniens donc en 2018. Donc les discussions sont ouvertes. Nous continuons à plaider l'idée qu'il faut que les partenaires de l'accord de Nouméa se retrouvent pour essayer de ensemble de déterminer quelle pourrait être la question finale qui sera posée aux Calédoniens. Donc nous sommes pour la discussion, et c'est logique, dans le cadre d'un accord qui a été négocié.
Et on parle de 2018, mais il y a aussi une échéance après en 2020 et 2022, si jamais les réponses vont d'une façon ou d'une autre.
Voilà, donc c'est prévu. Si à la première consultation, la réponse est négative, donc à ce moment-là, donc... le deuxième référendum sera proposé aux Calédoniens en 2020 et 2022. Si de nouveau la réponse est négative, à ce moment-là, il est prévu que les partenaires de l'accord, donc en l'occurrence l'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes se retrouvent pour voir quelle suite à donner à cet accord.
Si on parle de l'élection présidentielle, on sent dans la rue, les gens ne sont pas tellement, je veux dire intéressés, mais ce n'est pas forcément le bon mot, mais peut-être pas autant impliqués qu'ils pourraient l'être pour l'élection législative. C'est parce que ça paraît un peu lointain tout ça, ou pas ?
Je crois que cette année, cette élection n'a pas suscité la foule. Donc on voit bien, depuis deux semaines, c'est plus les législatives qui mobilisent les gens. Est-ce que c'est lointain ? Nous avons considéré qu'il faut quand même y aller. Donc, parce que nous considérons que le prochain président de la République sera un interlocuteur de notre mouvement, du mouvement indépendantiste, dans le cadre de la mise en place du processus de l'accord de Nouméa. Donc il faut qu'on continue. Donc nous l'avons dit également, les présidentielles, comme les législatives ou les sénatoriales, doivent servir de tremplin à la consultation. Donc nous avons une année, il faut que nos gens s'aguerrissent à l'idée d'aller voter. Parce que nous préconisons un pays qui soit démocratique. Et donc le vote est un instrument central de la démocratie. Donc voilà, des élections qui s'ouvrent, on demande à nos gens d'aller voter.
Est-ce qu'il y a certains candidats qui se préoccupent plus que d'autres de la Nouvelle-Calédonie, ou ça reste encore un peu lointain pour ces candidats de la présidentielle ?
Alors on sait que certains sont déjà venus, au moins les prétendants, certains étaient venus. Donc aujourd'hui, pour ceux qui se présentent là, personne n'est venu hein, physiquement en Nouvelle-Calédonie, mais le candidat que nous soutenons au présidentiel, donc en l'occurrence celui issu des primaires socialistes Benoît Hamon, a un programme pour la Nouvelle-Calédonie, donc comme tous les autres candidats. Nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est que, quel que soit le résultat, et que le prochain président qui sera issu des urnes assume le travail qui est préconisé dans le cadre de l'accord de Nouméa, parce que l'État est un partenaire. L'État est un partenaire, donc nous disons, et c'est, ça a toujours été la position qui est la nôtre, de dire de ne pas que la question de, calédonienne ne soit pas un enjeu d'ordre national. Hein. Nous sommes une collectivité sui generis, on a un processus qui est mis en œuvre pour la décolonisation du pays. Nous, on souhaite qu'on aille au terme de ce processus.
À quel point les populations kanak et Wallis aussi étant ici, à quel point on connaît la question aborigène en Australie et à quel point on voit des similitudes ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont très similaires entre l'action de l'Australie par rapport au peuple indigène, au peuple aborigène, et puis la France par rapport aux kanak. Oui. Est-ce qu'on voit une corralité ?
Les similitudes viennent d'abord du fait de la colonisation. La colonisation s'est faite avec des modalités différentes, mais s'est faite au détriment des peuples autochtones. Ça, c'est une réalité dans le monde. Chacun s'est battu et se bat pour voir comment se sortir de là. Nous, pour ce qui nous concerne, nous sommes également attentifs à la situation des aborigènes parce que il me semble qu'ils sont encore dans des situations encore plus difficiles du fait qu'ils sont totalement minoritaires. Nous c'est pas, on est minoritaire, mais dans des proportions qui soient soutenables, parce qu'aujourd'hui le peuple kanak représente à peu près 40% de la population, ce qui n'est pas le cas en Australie qui représente 15% de la population, donc domination donc totale. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous sommes battus pour que, qu'il y ait des dispositifs qui soient mis à disposition des Kanaks, mais c'est au travers du combat que l'on porte, pour qu'il y ait des formations pour les Kanaks. On s'est battu pour que, qu'il y ait des lieux de décision qui soient décentralisés, rendus possibles aujourd'hui avec les provinces, donc où les Kanaks indépendantistes eux-mêmes ont la possibilité de prendre en charge les questions quotidiennes qui se posent aux gens, donc que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan éducatif, sur le plan même du développement, etc. Ce qui n'est pas malheureusement encore le cas pour le peuple aborigène. Donc nous sommes totalement solidaires. Nous espérons, c'est le souhait que l'on formule au sein du groupe Fer de lance mélanésienne. Donc je sais que le FLNKS est membre du groupe Fer, pour que cette solidarité auprès des peuples qui étaient colonisés se joue pleinement.
J'ai deux dernières questions. Les jeunes d'aujourd'hui, le sentiment indépendantiste par rapport aux jeunes de votre époque, j'allais dire. Vous voyez ça comment ? C'est différent, l'indépendantisme dans les années 80 et aujourd'hui, le sentiment chez les jeunes ?
C'est totalement différent. Le contexte a changé. En 30 ans, la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, a atteint un niveau de développement qui n'était pas celui des années 70, donc avec tout ce que cela veut dire. Donc le mouvement, la revendication a été forte à l'époque. Donc aujourd'hui, avec la mise en place notamment d'abord des régions puis des provinces, ça a permis donc de travailler sur le rééquilibrage à la fois spatial mais aussi ethnique. Donc les jeunes, donc aujourd'hui, ils sont peut-être moins revendicatifs parce que les conditions quotidiennes ont changé. Nous-mêmes, on le voit dans le quotidien. Nos propres enfants aujourd'hui, eux, n'ont pas connu les situations que l'on connaissait à l'époque, où quasiment on n'avait pas de quoi manger, etc. Donc aujourd'hui, c'est moins le cas de la nouvelle génération. On essaie simplement, là aussi, parce qu'on est des vieux militants, d'essayer de leur inculquer l'idée que la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Et qu'il faut continuer à se battre tant que il y a l'exploitation de l'homme par l'homme. Aujourd'hui, il se fait pas de la même façon. Et surtout, le contexte a été rendu difficile par le fait qu'aujourd'hui, c'est le monde des finances qui a la mainmise hein, sur les États, sur les pays. Et souvent, ben, c'est indolore, alors que la domination, il reste quand même omniprésente.
Et toute dernière question, on en est où par rapport au rêve de Jean-Marie Djibaou ? Aujourd'hui, on n'est pas si loin de ça, d'atteindre le rêve de Jean-Marie Djibaou ?
Oui, c'est le rêve partagé, donc par tous ceux qui ont envie hein, qu'il y ait plus de justice sociale. Donc c'est partagé, donc c'est des valeurs qui sont promues ici par nous, par les peuples dits colonisés, mais aussi promues par les peuples dans des pays qui sont totalement souverains, mais qui continuent à subir la loi hein, du capital et des finances.
Merci.
Merci beaucoup.